Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon, mais aussi Margot Leridon et Lucas Lazo. Réalisée par Émilie Valla et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler ce matin d'Europe, de crise migratoire, puisque ces derniers jours, la situation sur l'île de Lesbos ne cesse de se tendre à mesure que les migrants y débarquent, avec des milliers de réfugiés qui se heurtent aux autorités grecques, mais aussi à la colère de militants d'extrême droite. Et de surcroît, l'annonce par Ankara de la perspective de nouvelles arrivées massives suscite des inquiétudes chez les États membres. En 2015, Angela Merkel, à contre-courant de ses voisins européens et sans les avoir consultés, avait fait le pari d'accueillir près d'un million de demandeurs d'asile. Une décision moralement très honorable, mais politiquement coûteuse, puisqu'elle a considérablement renforcé l'extrême droite et que ses conséquences se font encore sentir, on va le voir. Alors, à quoi faut-il s'attendre cette fois ? Quel sera le coût politique d'une nouvelle crise de l'accueil des réfugiés pour les différents États membres et en particulier pour l'Allemagne, mais aussi pour l'édifice européen? L'Union européenne a-t-elle les moyens de résister à cette nouvelle crise migratoire? Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin Hélène Mière de la Croix. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur d'histoire et civilisation de l'Allemagne contemporaine à l'université Sorbonne. On parlera de l'Allemagne en particulier, Hélène Mière de la Croix. Avec nous également Jean-Dominique Giuliani. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous président de la Fondation Robert Schuman et président de l'Institut libre d'études des relations internationales. Merci d'être avec nous. On abordera ces questions dans quelques minutes. Avant, place à notre retour d'eux. En partenariat avec l'Association des Prix Albert Londres, la journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Équateur.
Ça, ce sont des arbres très anciens. On les appelle premiers parce qu'ils n'ont jamais été abattus. C'est la nature pure. Il y a des palmiers pambiles, des guayacanes, des lauriers, des cédrelins. Cette jungle est très verte. Elle n'a jamais été brûlée, jamais détruite pour installer des élevages. Elle est intouchable parce qu'elle nous donne la vie. Quand cette plante est un peu plus tendre, tu la broies, tu t'en fais un bain, et cela te donne de la force. C'est bon aussi contre les nausées. Ici, pour moi, c'est comme un supermarché, comme une pharmacie. Il y a d'autres plantes aussi pour se laver les cheveux, pour se faire belle. Il y a de tout.
Bonjour Laura Aguirre de Carcer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste. On vous reçoit pour ce documentaire Nemo, la gardienne de la forêt, que vous avez co-réalisé avec Soigny Thiébaud et Marielle Crook, qui sera diffusé jeudi prochain, le 12 mars, sur France 2 dans Envoyé spécial. Au cœur de cette forêt équatorienne vit notamment cette communauté indigène des Waoroni, qui l'année dernière a remporté une victoire historique contre l'État équatorien, qui avait vendu ses terres, on va en parler, à des compagnies pétrolières. C'est une victoire qui a été obtenue grâce justement à cette militante qu'on entend là, Nemante Nkimo, qu'on surnomme Nemo, dont le combat pour la protection de sa culture, de ses territoires, a permis justement d'accéder à des postes à responsabilité très importants au sein de sa communauté. On va en parler. Vous l'avez suivi depuis New York jusqu'au cœur de cette forêt amazonienne. Cette rencontre, d'abord, elle se fait quand et comment, Laura Aguirre des Carcères?
Alors, cette rencontre, elle se fait à New York, paradoxalement, alors que c'est une femme qu'on va aller ensuite rencontrer au cœur de la forêt amazonienne en Équateur. On rencontre Nemo à New York, on était déjà en contact avec elle, et quand on rentre en contact avec elle, elle nous dit, eh ben, je vais à New York là dans quelques jours, ça va être une grande première pour moi. Elle était déjà allée aux États-Unis parce qu'elle a un compagnon qui est américain, mais c'était une première. Elle allait participer à une grande marche pour le climat, et c'est donc on s'est rencontrés.
C'était lors de ce sommet spécial en septembre dernier aux Nations Unies.
Ouais, exactement. Donc on s'est rencontrés à Brooklyn dans un environnement qui n'était pas du tout le sien. Ça la faisait beaucoup rire d'ailleurs, elle répétait à l'envi, tu vas voir bientôt, je vais t'emmener dans ma jungle, on va voir si tu seras si à l'aise. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Alors justement, elle vous y emmène, vous faites ces 6 heures de pirogue à remonter le fleuve, vous arrivez dans un petit village, même petit hameau, faudrait-il dire. Vous nous décrivez le lieu et le quotidien de ses habitants.
Oui, l'objectif c'était aussi de comprendre comment les Waorani vivent, les Waorani de Pastassa vivent aujourd'hui. C'est un peuple, une communauté indigène très particulière en Équateur, qui a été en contact avec le reste du monde assez récemment, après les années 50. C'est une communauté indigène qui est connue pour avoir depuis des années résisté aux envahisseurs qui ont été multipliés multiples, hein, parce que évidemment, eux, leur forêt amazonienne, leur jungle, c'est ce qui leur permet de vivre, mais d'autres ont d'autres velléités pour cette forêt. Il y a le bois qui est extrêmement précieux, il y a le pétrole qui gît sous les terres, et donc il y a eu de multiples personnes qui ont tenté d'entrer dans ce territoire. Les Warani sont connus aussi pour ce qui a forgé un peu leur réputation, entre guillemets, pour avoir assassiné des missionnaires évangéliques américains dans les années 50. C'est les premiers qui avaient tenté de rentrer en contact avec eux. Et pendant notre tournage, on a longé la petite plage où ces missionnaires avaient été assassinés. C'était 5 missionnaires américains évangéliques qui, les premiers, avaient tenté de rentrer en contact. Il y a même une partie des Warani qui vit encore sans contact. Mais on ne les a pas rencontrés, du coup.
Alors, elle est peut-être un peu particulière, Nemo, hein. Elle est justement très loin de ces communautés qui rejettent le contact. Mm-hmm. J'allais dire même au contraire, c'est une femme qui a fait ses études à Quito, qui d'ailleurs, c'est la raison peut-être pour laquelle elle maîtrise parfaitement l'espagnol, on vient de l'entendre, qui a parfaitement intégré les codes sociaux qui lui permettent justement de protéger sa forêt et de mener les combats juridiques dont on va parler.
Tout à fait, c'est une femme... C'est une femme qui utilise aussi les réseaux sociaux, par exemple. C'est une femme très connectée, alors pas quand elle est dans sa communauté parce qu'il n'y a pas de réseau, mais parce que son objectif à Nemo, c'est vraiment nous interpeller tous, nous interpeller la communauté internationale. Elle, le message qu'elle veut faire passer, c'est que la forêt amazonienne, c'est peut-être son territoire, mais c'est notre territoire à tous, au final, parce que ça contribue à un équilibre pour le climat. Et donc, dans sa volonté de nous interpeller, aussi de nous responsabiliser, pour qu'on comprenne mieux d'où vient le pétrole, à quel prix, à quel coût, quels sont les sacrifices pour obtenir ce pétrole. Elle s'adapte aussi beaucoup au monde occidental pour pouvoir nous parler, en fait, s'adresser à nous.
Ouais, et vous le disiez, elle est aussi mariée effectivement à un Américain qui est un militant d'une ONG de protection contre l'environnement. Ouais. Donc elle connaît parfaitement tout cela, les méthodes, les modalités de la lutte, etc. Elle est parfaitement bilingue avec tout ça. Son combat justement contre le pétrole et contre les sociétés pétrolières, venons-en, juillet dernier, le mouvement de résistance qu'elle avait lancé obtient une victoire vraiment historique, puisque l'État qui avait vendu aux enchères ces territoires se retrouve obligé de suspendre précisément cette décision. Expliquez-nous un peu ce qu'on reprochait dans cette histoire à l'État et ce que les juges ont, enfin ce qui a motivé les juges.
Alors les Waorani, bien sûr. Les Waorani, ils sont propriétaires de leur territoire, mais l'État est propriétaire du sous-sol. Donc ça commence comme ça. Pour pouvoir mettre aux enchères un territoire d'une communauté indigène, l'État doit d'abord faire ce qu'on appelle en espagnol une consulta previa, c'est-à-dire une consultation. Ils doivent demander au peuple s'ils sont d'accord, s'il est d'accord. Dans le cas des Waorani de Pastaza, la communauté de Nemo, l'État est bien venu faire une consultation en 2012 et a demandé au peuple s'il était d'accord pour que ce territoire soit mis aux enchères. Ce que Nemo va dénoncer en 2018, c'est que cette consultation ne s'est pas faite en bonne et due forme. C'est-à-dire que son peuple a été dupé. Il ne s'est pas rendu compte quand les membres du gouvernement équatorien sont venus dans leur communauté qu'ils étaient en fait en train de céder leurs terres. C'est une vieille histoire, on la connaît, hein, cette histoire. En gros, les membres du gouvernement sont arrivés, leur ont promis qu'avec le pétrole viendrait le développement économique, qu'ils allaient construire des maisons, qu'ils allaient construire une école, que la santé viendrait. Et donc, finalement, les membres de la communauté de Nemo ont signé un contrat en acceptant que leur territoire soit mis aux enchères.
Contre quelques morceaux de pain et quelques bonbons.
Exactement.
Pour raconter.
Exactement. Sans se rendre compte des conséquences. Et c'est pour ça que c'était un combat très compliqué et qu'elle a eu beaucoup d'audace et qu'elle a eu beaucoup de mal au départ à convaincre les membres de sa communauté. Parce que c'était un combat perdu d'avance. Mmh. Une toute petite communauté qui n'a pas internet, qui n'a pas d'accès au téléphone, etc., qui va s'opposer à son gouvernement équatorien dans un pays où le pétrole est complètement roi. Il fallait beaucoup d'audace et de courage. Mais elle est parvenue à faire ça. Et en fait, l'épreuve était assez simple. La consultation avait duré un quart d'heure dans certains villages. Elle avait été donnée énormément en espagnol.
Il faut le prouver, ça.
Oui, il faut le prouver, ça a été compliqué. Mais ils ont réussi à réunir 6 personnes qui ont porté plainte, 6 personnes qui avaient été interrogées à l'époque. Et puis, il y a des choses qui étaient frauduleuses très, très clairement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui avaient signé ce papier qui n'étaient même pas là ce jour-là. Donc, il y avait aussi des signatures qui avaient été falsifiées, des vidéos. Il y a une vidéo très intéressante qui s'est retournée contre le gouvernement équatorien, parce que c'était une vidéo qu'ils mettaient en avant pour dire qu'ils avaient bien informé les Waorani. Et en fait, dans cette vidéo, on voit qu'on leur parle en espagnol, que la traduction est faite très, très rapidement en Wao, et que, effectivement, les gens en face n'y comprennent pas grand-chose.
Visiblement, il y a quelque chose aussi qui a beaucoup pesé dans la décision des juges. C'est tout le travail qui a été fait pour collecter les informations autour de la biodiversité qui existe sur ces territoires. Et à un moment dans le documentaire, on les voit sortir d'immenses cartes sur lesquelles apparaissent des animaux divers et variés. Je les connaissais pas tous, peu importe, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un travail de collecte très important qui a été fait sur la question de la biodiversité. Il y a eu aussi visiblement de longues séquences de vidéos avec des captations là d'un jaguar, là je ne sais pas quoi. Ça a beaucoup pesé dans la décision du juge, ça, visiblement.
Absolument, parce que en fait le mot le plus important de la communauté Warani, c'était de dire que leur territoire est une richesse et que peut-être que cette richesse n'est pas celle qu'entend le gouvernement, mais elle existe quand même. Les cartes, c'est très intéressant, c'est un projet qu'ils étaient en train de mener à bien depuis 4 ans. C'est un projet très très long qui est antérieur à la décision de justice. Et en fait, leur idée, c'était de dire, on a toujours des gens qui viennent de l'extérieur. Les cartes, le territoire, finalement, c'est une forme de pouvoir. Et ils viennent de l'extérieur et ils dessinent des blocs pétroliers sans se rendre compte qu'en fait, la délimitation du bloc, il y a peut-être un cimetière des anciens, il y a peut-être une rivière, il y a aussi des matières précieuses. Et en fait, ce qu'ils ont voulu faire avec ce mapeo, donc cette grande carte qu'ils ont constituée de leur territoire, c'était mettre en avant ce que eux estimaient être une richesse. Ce qui n'est pas ce que les compagnies pétrolières estiment être une richesse, par exemple. Et donc, c'est à la fois un outil de reconquête de leur territoire, mais c'est aussi un outil politique. Le territoire et la carte devient une forme d'objet politique pour revendiquer et reconquérir un territoire qui est tant convoité et tellement dessiné par d'autres.
Est-ce que vous pensez que cette décision pourrait faire jurisprudence ?
C'est exactement ce que cherchent à faire aujourd'hui les Waorani. Ils étaient encore là il y a 15 jours à Quito. Ils se sont remobilisés très fortement, ce qui implique des choses absolument incroyables pour eux, parce que faire une manifestation avec 50 personnes à Quito, pour eux, ça veut dire trouver 15 canoës, etc. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup d'infrastructures, etc. Et ils sont montés à Quito pour que cette décision fasse jurisprudence. Parce que la grande crainte aujourd'hui, c'est qu'elle ne soit pas appliquée. On sait, il y a beaucoup aussi de compagnies pétrolières qui rentrent illégalement sur certaines parties du territoire, pour de la déforestation, pour du bois, pour plein de choses. Donc c'est effectivement ce qu'ils veulent faire aujourd'hui.
Pour bien comprendre l'enjeu, Nemo vous emmène aussi sur un site où on va pouvoir voir, sentir les effets de l'exploitation pétrolière sur le site. Le site sur lequel elle vous emmène est devenu carrément une petite ville. Et alors là, ça ne s'invente pas, la ville s'appelle Shell.
Oui. Alors, l'endroit où elle nous emmène pour voir la piscine de déchets toxiques, c'est à Lago Agrio, c'est au nord, ça s'appelle Lac Aigre, ça ne s'invente pas non plus. Mais Shell, effectivement, c'est la petite ville. Alors, ça paraît complètement improbable d'avoir une ville qui s'appelle Shell, du nom de la compagnie pétrolière, multinationale pétrolière, en plein milieu de l'Amazonie équatorienne. Il y a un sentiment un peu bouleversant, en fait. Et en fait, Shell, cette petite ville s'appelle Shell, effectivement, parce que Shell, c'est la compagnie qui a, la première, construit une piste pour que les avions atterrissent. Avions atterrissent signifie que des compagnies peuvent entrer dans le territoire, etc. etc.
C'était il y a longtemps, dans les années 30.
Oui, exactement. Ouais.
Et donc, à quelques encablures de la ville, on vous emmène sur ce site totalement pollué, cette piscine pleine de pétrole laissée par l'ancien exploitant Chevron. Comment est-ce que des entreprises ont pu se retirer en laissant derrière eux ce désastre écologique?
C'est l'objet du procès, le plus grand procès environnemental de tous les temps, le procès des superlatifs, effectivement dans le nord de l'Équateur, autour de la ville de Lago Agrio. Il y a un procès, 30 000 Équatoriens essayent d'obtenir réparation depuis bientôt 30 ans, depuis 27 ans, pour que Chevron, Texaco à l'époque, ça a été racheté par Chevron, qui est une compagnie pétrolière qui s'était installée dans cette région, dépollue les piscines de déchets toxiques qui ont été laissés là. C'est un combat qui a amené la justice équatorienne à prononcer une amende record contre Chevron en 2011 de plus de 9 milliards de dollars. Mais c'est une sentence que Chevron Texaco n'accepte pas, conteste, refuse de payer, parce que en fait ils estiment que ces piscines de déchets toxiques doivent être dépolluées par la compagnie nationale pétrolière. Nationale équatorienne.
Eh oui, parce qu'ils considèrent que puisqu'ils ont laissé leur part à l'entreprise nationale en se retirant, eh bien c'est à elle maintenant d'assumer les conséquences de tout cela. Laura Aguirre-Descarcères, peut-être un mot sur les grandes manifestations qui avaient eu lieu l'année dernière, et notamment en octobre dernier, avec vraiment une série de manifestations très importante suite à l'annonce de mesures d'austérité prises par le gouvernement dans le cadre d'un accord avec le FMI. Il y avait notamment eu justement une annonce sur la hausse des prix du pétrole qui avait été décidée par le gouvernement, des violences très importantes, une dizaine de morts, des centaines de blessés. Et puis le président Lénine Moreno avait fini par retirer son projet de réforme sous la pression de la rue. Plusieurs organisations indigènes avaient participé justement à ces manifestations. Elles étaient même souvent en première ligne. Est-ce que Nemo y a participé ou est-ce que précisément la montée des prix du pétrole, c'est plutôt une bonne nouvelle, a priori pour elle. Est-ce qu'elle s'est mise en retrait ou est-ce qu'elle a participé ?
Pas du tout. Elle a participé. Au départ, moi, j'étais presque étonnée. D'ailleurs, ça a repoussé notre voyage. Et effectivement, au départ, moi, j'y voyais un paradoxe. C'est-à-dire que, à la fois, elle défend le fait de ne pas explorer, etc., etc. Et en même temps, elle milite pour que le pétrole soit moins cher. Mais en fait, il faut se remettre dans le contexte équatorien. Le contexte équatorien, c'est des années et des années où on a dit aux communautés indigènes, si vous acceptez le pétrole, alors vous aurez la richesse. Alors vous aurez des ressources. Et aujourd'hui, c'est comme un paradoxe, si vous voulez. On les a forcés dans plein de territoires à accepter les compagnies pétrolières. Et eux, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que ça les a appauvris. Donc, militer pour ça, c'était un symbole de plus. C'est-à-dire que ce pétrole qu'on vient extraire de leur terre, qu'on vient contaminer, etc., leur terre qu'on vient contaminer, où on bouleverse leur mode de vie, et en plus un pétrole qui ne sera plus subventionné par l'État, parce que c'était ça qui était en jeu, et qui ne pourrait plus s'offrir. Donc ça creusait les inégalités. Et c'est contre ça qu'ils ont lutté. Mais effectivement, il peut y avoir un paradoxe au départ.
C'est quoi les combats de demain pour Nemo ?
Combat pour demain, c'est un combat déjà tout simple, c'est faire respecter cette sentence. Et ensuite, Nemo, elle s'est engagée dans une reconquête de son territoire aussi par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle veut que l'éducation dans les territoires soit différente. Elle mène un combat qu'elle appelle Escolia Plompea pour en fait que l'éducation vienne fasse une part plus importante à la culture traditionnelle Waorani. Le combat de la vie de Nemo, en fait, c'est faire que sa culture ne meure pas. C'est tout simplement ça. Et ça va passer par plein de moyens, mais ça va être ce qui va la guider dans les années qui viennent.
Elle pourra avoir un destin politique national ?
Je pense que c'est pas impossible. Je pense que c'est pas impossible. Après, c'est compliqué parce que dans la représentation politique nationale, les communautés indigènes, c'est compliqué. C'est comme une force, on va dire, un peu à côté, un peu parallèle. Mais oui, elle peut avoir un destin national, je pense.
Elle va bientôt passer en Europe ?
Il est possible qu'elle passe en Europe bientôt, ouais, en Allemagne.
Déjà une chef d'État. Merci beaucoup, Laure Aguirre-Descarcères, donc pour ce documentaire Nemo, la gardienne de la forêt, qui sera diffusé jeudi prochain, jeudi 12 mars, sur France 2 dans Envoyé spécial. C'est 21h05, c'est ça ? Mm-hmm. Merci d'être passé dans nos studios.
Merci à vous. Corre fuerte por mis entrañas. Con el llague voy nadando por tu sangre. Como el llague voy serpenteando. Como el llague voy serpenteando.
Nicolas Cruz, qu'on tourne notre page et qu'on se dirige du côté de l'Europe 5 ans après le Willkommen, nouvelle panique migratoire en Europe.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
En 2016, l'incapacité des États membres à s'accorder sur l'accueil des réfugiés avait poussé l'Union européenne à passer un accord avec Ankara pour en assurer la gestion. Sauf que la montée des tensions entre l'armée turque et le régime syrien soutenu par la Russie pousse Erdogan à ressortir la menace d'une nouvelle crise migratoire. D'ailleurs, la menace a été mise à exécution puisque la Turquie a ouvert les frontières, laissant passer des réfugiés débarquant en nombre sur l'île grecque de Lesbos et provoquant la panique chez les dirigeants européens.
La situation de nos frontières n'est pas seulement un problème pour la Grèce, mais c'est une responsabilité pour l'Europe entière. Et nous allons y répondre de manière ordonnée, dans l'unité et la solidarité, avec détermination. Ceux qui cherchent à tester l'unité de l'Europe vont être déçus. Nous tiendrons bon et notre unité prévaudra. Il est venu le temps de l'action concertée, de garder la tête froide et d'agir selon nos valeurs. La Turquie n'est pas une ennemie, mais les gens ne sont pas des moyens pour atteindre un objectif. Nous ferions bien de garder ces deux éléments en tête dans les jours à venir.
Voilà, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission qui avait fait le déplacement. Quelles pourraient être les conséquences politiques de cette nouvelle crise migratoire pour l'ensemble de l'Europe et en particulier pour l'Allemagne? Voilà les questions sur lesquelles on se penche ce matin. Hélène Mière de la Croix et Jean-Dominique Giuliani sont nos invités ce matin. Marc Semo, notre partenaire du Monde. Marc, en fait, il y a une chose là qui apparaît très clairement, c'est que ce qui est en train de se passer là, c'est tout sauf une surprise.
Oui.
On pouvait s'y attendre. C'était parfaitement prévisible.
On pouvait s'y attendre. Alors Recep Tayyip Erdogan a menacé de l'afflux de millions, ce sont ses mots, de migrants vers les frontières grecques et bulgares si l'Europe continuait à rester passive face à la tragédie d'Idlib. En fait, ils ont été quelques dizaines de milliers, mais venus avec le soutien du mouvement islamiste au pouvoir à Ankara. Mais cela a suffi pour raviver les peurs de 2015 et galvaniser encore un peu plus des mouvements xénophobes en Europe qui ont partout le vent en poupe. Alors, en fait, l'homme fort d'Ankara met les 27 face à leurs contradictions et leur hypocrisie. Les Occidentaux payent le prix de leur non-engagement dans la crise syrienne, au-delà de la lutte contre Daesh. Face à cette tragédie, ils n'ont rien fait ou rien pu faire pour arrêter les exactions du régime qui ont entraîné l'exode ou le déplacement de plus de 10 millions de Syriens depuis le début de la guerre il y a 9 ans. La Turquie, elle, a accueilli 4 millions de réfugiés, avec au début les encouragements du pouvoir, mais ce fardeau est jugé désormais insupportable par l'écrasante majorité de l'opinion, malgré les aides de quelques 6 milliards d'euros accordées par l'Union européenne. Alors cette tragédie d'abord nous rappelle aussi que la Turquie reste, pour des raisons géographiques et stratégiques évidentes, un partenaire obligé. L'Europe, par ailleurs, doit rester fidèle à ses valeurs et ne peut continuer à fermer les yeux sur cette tragédie à ses portes. Mais elle doit aussi garder son sang-froid. Un bon tiers du million de réfugiés accueillis en Allemagne en 2015 ont aujourd'hui un emploi. Il y a une intégration. Le Wir schaffen das, nous y arriverons, lancé à l'époque par Angela Merkel, est en partie devenu réalité, malgré ceux qui attisent les haines et les peurs.
Alors voilà, le décor est posé. On reviendra sur un certain nombre d'éléments que vous avez déjà introduits, mais je voudrais peut-être vous entendre sur cet événement-là qui arrive, qui fait la une de tous nos médias, mais qui en réalité était totalement prévisible, Hélène Mière de la Croix, une fois encore, à partir du moment où en 2016 on passe cet accord, Angela Merkel va voir Erdogan, on passe cet accord pour la gestion des réfugiés, mais en réalité on ne règle rien et on sait bien qu'avec un allié comme Erdogan, qui n'a pas toujours été parfaitement loyal, parfaitement fidèle, on était exposé à cet événement, Hélène Mière de la Croix.
Ben oui, ça fait partie des réactions qu'on entend en Allemagne actuellement. C'est-à-dire, tout le monde regarde un petit peu par terre en se disant, nous le savions bien. C'était une mesure prise un peu en urgence. Marc Semo a très justement rappelé que l'Allemagne a volontairement accepté plus d'un million de réfugiés. Et on sait que ça a été très mal pris dans la population et qu'il y a des effets de déstabilisation du système politique qui ne sont pas uniquement dus à cette cause, mais en grande partie quand même. Et que la décision de 2016 de trouver cet arrangement avec la Turquie, ce qui a d'ailleurs en plus été reproché à Mme Merkel de l'avoir négocié toute seule et non pas seulement en accord avec les autres, eh bien c'est le moment en Allemagne de se poser des questions sur a-t-on vraiment simplement poussé le problème à la frontière et regarder, détourner pudiquement le regard, ou est-ce que nous sommes prêts à un nouvel afflux. Or, ce qu'on constate en Allemagne actuellement, c'est un mélange d'indignation face à l'attitude très inhumaine, finalement, d'ouvrir les frontières en disant bah, « débrouillez-vous » et lancer les gens contre une forteresse à fermer, et un appel au sang-froid, mais avec une très claire incapacité de prendre une vraie décision. Et ce qui m'a le plus frappé le dernier jour, c'est que le groupe parlementaire des Verts au Bundestag a proposé d'accueillir en urgence 5000 personnes en situation dramatique, c'est-à-dire des enfants, des femmes enceintes, etc. Et il y a eu près de 500 voix des autres députés contre. C'est-à-dire que la menace que fait peser l'AFD et le populisme en général et la crainte d'un rejet absolu de l'opinion conduit à ce type de réaction absolument massive.
On reviendra évidemment sur les bouleversements politiques que ça produit, cet accueil des réfugiés, parce qu'ils sont réels et que les conséquences se sentent encore aujourd'hui, et notamment à la tête de la CDU. Il y aura un congrès extraordinaire le 25 avril prochain. Il va falloir revenir sur cette question-là. Jean-Dominique Giuliani, sur ce caractère prévisible, et puis peut-être pour avancer, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui s'est dit? Parce que on est allé du côté d'Ankara pour essayer de régler un petit peu le problème. Charles Michel est allé sur place, le président du Conseil européen. Josep Borrell également, qui est en charge des affaires étrangères pour l'Europe. Qu'est-ce qu'on s'est dit?
Écoutez, dire que c'était prévisible, oui, mais nous ne sommes pas dans la même situation. On a quand même fait des progrès.
Ah oui, donc quoi?
D'abord, on a dépensé beaucoup d'argent, non pas pour M. Erdogan, mais pour accueillir les réfugiés, et pas seulement en Turquie, au Liban aussi, ou ailleurs. Il faut savoir que tous les réfugiés de la crise syrienne, pratiquement, c'est plus de 6 milliards, en fait c'est 9 milliards d'euros qui sont prévus, et on peut dire que c'est pas une bonne idée, on peut critiquer, mais enfin l'Europe n'est pas restée sans réaction. Deuxièmement, Frontex est quand même monté en un degré supérieur avec l'argent qui convient, la mobilisation des États membres pour venir en aide à la Grèce, notamment pour essayer à la fois de concilier ce qu'on appelle nos valeurs en Europe, c'est-à-dire de laisser les portes ouvertes et d'enregistrer les migrants, et à la fois de ne pas céder au chantage d'Erdogan. Parce que
Juste Jean-Dominique Giuliani, quand même, juste petite parenthèse.
Je suis frappé de la manière dont vous présentez ça. Un chef d'État d'un État soi-disant membre de l'OTAN, dont la démocratie est d'ailleurs discutable, décide de dire « j'ouvre les frontières ». Mais en réalité, quand vous allez aller enquêter et vous allez envoyer vos journalistes, vous allez vous apercevoir que non seulement, et c'est pas seulement ouvrir les frontières, la police turque a poussé, a fait sortir des camps des réfugiés pour les amener à la frontière. Lorsqu'on va découvrir tout ça, vous allez découvrir quand même l'autre face de la chose, c'est-à-dire l'utilisation de réfugiés qu'on doit aider, etc., que l'Europe est la seule à aider pour les pousser à la frontière et pour leur faire pousser les grillages en leur donnant même les pinces pour ouvrir les grillages. Mmh.
Donc, si oui, pouvez, mais Jean-Dominique Giuliani, par exemple, ce que vous dites sur l'Europe et sur Frontex, par exemple, ce contingent permanent de 10 000 agents qui devait être en place pour 2021, il ne le sera qu'en 2027. Donc on a poussé les choses, y compris sur la question de la gestion des frontières.
Capable de recruter 10 000 personnes,
non seulement on a été incapable, non seulement l'Europe a été incapable de gérer la question de l'accueil des réfugiés avec le fameux accord de répartition, mais en plus, sur la question de la gestion des frontières, elle s'est montrée pas à la hauteur puisqu'elle repousse le défi.
Parce que qu'auriez-vous...
Je suis un simple journaliste.
Mais oui, c'est ça, c'est facile, n'est-ce pas? C'est une question extrêmement complexe, n'est-ce pas? Et je suis désolé, pour la première fois, que vous le vouliez ou non, nos ministres de l'Intérieur, la Commission européenne, les institutions européennes ont décidé de ne pas céder au chantage de M. Erdogan. Alors évidemment, c'est très difficile comme décision. On ferme la frontière. Mais je vous signale que toute l'opinion publique européenne n'attend que ça. En Allemagne, en France. Et on entend même de plus en plus. Moi, je suis très ouvert. Je suis en train de travailler sur la conférence de 38, sur la manière dont on a traité les Juifs à l'époque. Donc vous voyez, je suis extrêmement sensible à tout ça. Ceci dit, l'opinion publique, elle réclame qu'on se conduise comme l'Australie. C'est-à-dire qu'on repousse les migrants, ce qu'on ne fait pas. D'accord ? L'Europe ne fait pas cela. Mais qu'on ferme la frontière au chantage d'Erdogan, c'est une nouvelle importante qui n'est pas seulement due à la pression de l'AFD ou de Marine Le Pen, ou etc. C'est dû aussi au fait que l'Europe doit réagir à un moment ou à un autre. Elle est la plus généreuse avec les réfugiés.
Je vais faire un peu l'avocat du diable.
Oui, allez-y.
Bon, il y a 4 millions de réfugiés en Turquie, ce qui est énorme. C'est quand même un fardeau qui est extrêmement lourd. Il y a 1 million de déplacés sur les 3 millions et demi de personnes vivant dans la poche d'Idlib qui font pression maintenant pour rentrer en Turquie. On peut comprendre qu'Erdogan utilise les moyens de pression à sa disposition pour dire à l'Europe...
Faites
votre part. Le problème aujourd'hui, est-ce que l'Europe peut tout à la fois dire « on bloque les frontières » et tout à la fois dire, parce qu'on ne peut rien faire et parce qu'on s'est mis en situation de ne rien faire, pour aider d'une manière ou d'une autre à stabiliser la situation en Syrie.
Marc, vous savez...
Jean-Dominique Giuliani, puis ensuite Hélène Mière de la Croix, on va essayer de faire tourner la parole.
Dans la crise syrienne, M. Erdogan, personnellement, fâché avec tous ses voisins, c'est lui qui a contribué aussi à la situation actuelle. N'oubliez jamais ça. Il était, il y a encore quelques mois, en train de chasser du Kurde. Il a lui-même, de manière active, essayé de faire ce qu'il a fait en Égypte, en poussant les frères musulmans, en essayant de déstabiliser son voisin Bachar el-Assad. Donc il a aussi ce qu'il mérite.
Écoutez, sur les 12 millions ou les 10 millions de réfugiés syriens, l'écrasante majorité ne sont ni des Kurdes, ni des gens qui ont fui Daesh. Ce sont des gens qui ont fui les exactions
du
régime.
Que fait sa, son armée?
Donc qu'est-ce que les Européens ont fait pour lutter contre les exactions du régime de Bachar el-Assad?
Qu'est-ce que les Chinois, les Américains ont fait? Tout le monde est parti. D'accord. Lui, le voisin, il envoie son armée en Syrie pour combattre le régime. Mais je suis désolé, il est aussi responsable de la situation. On ne lui a pas demandé ça, personne. Et y a, est-ce que vous demandez aux troupes européennes d'aller en Syrie? Parce que c'est ça la solution. C'est moi, je veux bien qu'on ait bonne conscience.
Ça fait 9 ans qu'ils demandent une zone de sécurité pour pouvoir servir de havre à la population et éviter les bombardements.
Est-ce que votre journal est prêt à mettre à la une en disant il faut que les troupes françaises aillent en Syrie pour ramener le calme? Non, personne. Donc ni les Américains qui sont partis, ni les Chinois. Il n'y a que M. Erdogan qui va combattre son voisin. Donc il faut aussi faire la part des choses. Moi aussi, j'ai le cœur qui saigne quand je vois les réfugiés et comment on les traite. Mais c'est quand même d'un cynisme épouvantable, condamnable, passible de la Cour de justice internationale, d'utiliser quand même les réfugiés pour obtenir des buts politiques, si vous voulez. C'est bien ça le sujet.
Hélène Mère de la Croix, on va parler évidemment de l'Allemagne, mais là, il faut réagir sur ce sujet.
Mais je crois qu'en effet, si on s'arrête juste sur les opinions publiques, bon, moi je peux au moins comparer deux, la France et l'Allemagne, je pense que... Je veux pas vous départager tous les deux, mais je pense que ce qu'a dit Jean-Dominique Giuliani, c'est ça qui passe. C'est-à-dire que cela viendrait d'un autre chef d'État avec un autre comportement qui aurait 4 millions de personnes réfugiées. Je pense qu'il y aurait une disposition, parce que aussi il y a un esprit chrétien dominant en Europe, d'aider les gens. Sauf que Erdogan a donné l'impression aux opinions d'être non seulement de piétiner chez lui les droits fondamentaux. On en est suffisamment informé, ce qui est une réalité, mais surtout d'avoir une politique extrêmement versatile selon les moments, selon la façon dont ça l'arrange, d'avoir en effet de profiter de la situation, profiter que les Américains partaient pour régler ses affaires avec les Kurdes. Je pense que beaucoup d'Européens ne comprennent pas très bien cette espèce d'obsession des Turcs, que les Turcs ont vis-à-vis des Kurdes, qui ne sont pas quand même le danger le plus important. Outre le fait que ce sont des gens qui demandent la création d'un État, qui est un droit aussi des peuples à disposer d'eux-mêmes, et surtout la façon dont Erdogan joue les uns contre les autres, se tourne vers les Russes, dit finalement que les alliés de l'OTAN ne sont pas des alliés, puis là d'un seul coup, quand il a besoin du soutien des Européens, d'un seul coup on vient dire finalement nous avons besoin de vous. Je pense que l'homme de la rue, la femme de la rue, là fronce le sourcil en disant il faudrait quand même pas qu'on nous prenne pour des imbéciles. Et c'est là-dessus, je pense, que va s'installer le refus global dans les populations européennes de, non pas tellement d'accepter des enfants dont on voit tous les images à la télévision, mais de donner l'impression de céder à un chantage et d'être pris pour des imbéciles.
On va dans un instant parler de l'Allemagne, mais si on revient un instant avec vous, Jean-Dominique Giuliani, sur maintenant, que doit faire l'Europe? Que doit faire l'Europe maintenant?
Et elle est,
repasser un accord avec Ankara?
Moi, je ne sais pas ce qu'elle doit faire. Ce que je sais, c'est que les ministres de l'Intérieur, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis ces deux derniers jours. Ils sont tous d'accord pour, un, ne pas céder à ce chantage. Donc, on ferme la frontière. C'est-à-dire, on ferme la frontière.
Vous avez beau fermer la frontière, si Erdogan décide d'envoyer, vous le disiez vous-même, d'envoyer des réfugiés, ils passeront.
Non, ils passeront pas. Ils passeront pas, ou il y en a qui passeront sur les îles, etc. On les accueillera à partir du 11 mars. Il y a, je crois, Frontex. Et il faut pas critiquer Frontex, si vous voulez. On a mis au point, en Europe, on est toujours un peu en retard, chronologiquement, sur les événements. Mais généralement, mais oui.
Le contingent de 10 000 agents supplémentaires prévu pour 2021 repoussé à 2027.
Mais oui, parce que
c'est pas un problème d'organisation.
Mais non, mais je peux vous dire que les crédits sont là. Je peux vous dire
alors pourquoi on n'y va pas?
Mais moi, je suis allé voir. On a ouvert les concours. Les États ont donné leurs policiers pour le faire, mais on ne recrute pas 10 000 personnes en une journée, surtout que, et c'est le jour où vous allez voir arriver des policiers allemands à la frontière du sud de la France pour contrôler les frontières, parce que c'est ça Frontex, c'est créer un corps de garde-côte et de garde-frontière qui soit un jour mutualisé, donc fédéral. Donc aujourd'hui, les États ne sont pas d'accord. Chacun veut gérer, y compris nous, n'est-ce pas ? Il y a 2 ans, on a fait une loi sur l'immigration et sur la sécurité intérieure. On l'a fait tout seul en France, alors que le président de la République est très européen. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué. Donc, Frontex est aujourd'hui en voie de constitution. Il y a déjà 1300 personnes. À partir du 11, c'est-à-dire la semaine prochaine, et du 12, il y aura 1000 agents Frontex qui seront sur place pour essayer d'aider les Grecs, pour que la frontière soit contrôlée. C'est ça que veulent des opinions, et pas que des opinions publiques. Nos États, tous, y compris l'Allemagne, veulent que la frontière soit contrôlée, et pas seulement sous pression politique, aussi par nécessité. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser dire que l'Europe est une passoire en permanence, parce que ce sont les extrêmes de gauche et de droite qui font leur miel là-dessus.
Alors, Hélène Mire de la Croix, justement, dirigeante du côté de l'Allemagne, on se souvient, on l'a dit déjà, qu'en 2015, Angela Merkel avait décidé d'ouvrir les portes aux réfugiés, plus d'un million sur l'année. Alors le geste avait été évidemment salué, et il y a eu quand même des conséquences politiques, puisque d'abord évidemment il a nourri la xénophobie, il a permis cette montée en puissance de l'extrême droite. Il faut rappeler que 2017, ce sont plus de 90 députés de l'AFD qui sont rentrés au Bundestag. Plus récemment, on a eu ces élections en Thuringe, dont il va peut-être falloir parler aussi, c'est-à-dire cet accord entre les conservateurs et l'AFD qui a provoqué une crise profonde au sein de la CDU, dont la chef Annegret Kramp-Karrenbauer a dû, elle a tout simplement dû démissionner. On a là un congrès extraordinaire qui va être organisé le 25 avril prochain. Comment est-ce que vous voyez les conséquences politiques de cette nouvelle panique migratoire en Europe sur la politique allemande? Est-ce que déjà on peut acter le fait que ça y est, la CDU, c'est plus qu'une question de semaines, a vraiment mis la barre à droite, s'apprête à le faire en tout cas?
Alors ça va dépendre vraiment de celui qui va réussir à s'imposer, je dis celui parce qu'il n'y a pas de candidat de femme, celui des 3 candidats déclarés, il y a un 4e qui me semble-t-il n'a pas beaucoup de chance, celui qui va s'imposer. Si c'est en effet Friedrich Merz, il a très clairement dit qu'il voulait pousser vers la droite, que la CDU avait commis l'erreur de se centrer, d'arriver dans le centre de l'espace politique et de laisser un espace à sa droite dans lequel s'est précipité. D'abord, dans un premier temps, toute la frange de la population qui était hostile à l'euro et à la solidarité européenne, puis la population qui est animée plus ou moins fortement de sentiments xénophobes qui ont été nourris par l'arrivée des migrants. C'est toujours difficile de dire ce qui va se passer. Si c'est en revanche Armin Laschet, qui est le ministre-président chef du gouvernement régional de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui est beaucoup plus dans la ligne de Merkel, qui est beaucoup plus européen, beaucoup plus pro-franco-allemand, le coup de barre à droite n'est pas certain. Ce qui est clair, je pense, c'est que va être mis un terme au style Merkel, qui est extrêmement critiqué actuellement, qui est cette main douce, cette main discrète, cette impassibilité, qui est jugée souvent comme d'ailleurs un manque d'émotion, et que le seul moment où elle a manifesté de l'émotion et de l'empathie en disant « nous allons y arriver » et en faisant des selfies avec les migrants qui arrivaient à la gare, ça lui a été énormément reproché comme une grande irresponsabilité. Ce qui est intéressant, c'est que dans les médias allemands ces jours-ci, lui est reproché aussi le fait d'avoir à l'époque, bon, non seulement ouvert les portes sans réfléchir, sans se concerter avec les autres européens, mais aussi en plus d'avoir montré du doigt les autres européens en disant « vous n'êtes pas assez solidaires ». C'est-à-dire que d'une certaine façon, elle a eu tout faux et lui est reproché aussi actuellement, en particulier par l'ancien chancelier Schröder, alors dont la voix est un peu compliquée parce qu'il est à la fois ami de Poutine, ami d'Erdogan et est très engagé dans des affaires du gaz en Russie, est reproché à Angela Merkel de ne pas jouer le rôle qu'elle est presque seule à pouvoir jouer en Europe, c'est-à-dire le go-between, c'est-à-dire cette tradition de l'Allemagne d'après 45 qui ne se veut pas une grande puissance mais qui par derrière, essaie d'arranger les choses, met les gens en relation et facilite les relations. Et donc, pourrait intervenir pour rapprocher Erdogan de Poutine. Manifestement, ils ont trouvé un accord, peut-être avec elle, sans elle, mais c'est là la seule demande qui soit faite à Angela Merkel pour le peu de temps qui lui reste.
Jean-Dominique Giuliani, et puis ensuite Marc Sémo. Jean-Dominique Giuliani, manque d'émotion, disait Hélène Mire de la Croix. Est-ce que c'est seulement un manque d'émotion ou est-ce que c'est peut-être aussi un manque d'idéologie? Parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend du côté de l'Allemagne, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, Angela Merkel aurait conduit sa politique au gré de l'opinion, mais qu'elle aurait désidéologisé le paysage politique allemand.
Oui, sur le plan européen, en tout cas, je ne sais pas, je pense qu'il y a une réflexion intéressante dans cette voie-là, mais sur le plan européen, elle a agi comme une joueuse de tennis de fond de cour, en réalité. Elle renvoie bien les balles, joue bien, mais elle prend aucune initiative, européenne en tout cas. On l'a vu lorsque, regardez, ses relations avec Emmanuel Macron ont très bien commencé, mais elle n'a jamais répondu vraiment à la main tendue d'Emmanuel Macron. Là encore, le 7 février, le président de la République française fait quand même un geste très important en matière de doctrine nucléaire, etc. Et les réponses venues d'Allemagne, il n'y en a pas de la part de Madame Merkel. Et donc, on a le sentiment que elle a abandonné le rôle qu'avaient ses prédécesseurs, qui étaient extrêmement actifs sur la scène européenne, parfois pas en accord avec la France, c'était parfois un peu musclé sous la table, n'est-ce pas? Mais il y avait Helmut Kohl ou même Schröder, le traité, le sommet de Nice, etc., avait été un affrontement entre Chirac et Schröder avant qu'ils trouvent un arrangement. Il y avait une Allemagne européenne avec une vision européenne. Et là, on a le sentiment, les partenaires européens, que Madame Merkel, c'est l'Allemagne d'abord, et j'allais dire même un peu sa coalition qui, on le sait, est difficile. Et donc, l'Allemagne nous manque sur le plan européen. Il nous manque une Allemagne proactive. On peut pas
seulement... Elle est attentiste.
Elle est très attentiste. Mmh. Elle est toujours en réaction. Elle n'est pas en proactive, en réalité.
Marc Sémo.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe allemand? C'est-à-dire, à la fois, l'Allemagne est un pays qui a un besoin crucial de main-d'œuvre. C'est un pays vieillissant. C'est aussi un pays qui a fait un travail de mémoire très important, hein, sur ce que fut le nazisme, etc. Et c'est dans ce pays où le choc des migrants a été le plus dévastateur, avec cette envolée de l'AFD, hein, l'Alternative für Deutschland, qui en plus a aussi des ailes qui sont quasiment nazies. Et c'est aussi le pays où aujourd'hui il y a un terrorisme d'extrême droite redoutable qui est considéré par le BND comme la principale menace en Allemagne. Alors est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe allemand là-dedans? Et en plus, comme le disait tout à l'heure, finalement, une partie significative de ces migrants s'est bien intégrée.
Hélène Mire de la
Croix. Oui, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, c'est reconnu maintenant au plus haut niveau. Wolfgang Schäuble, le président du Bundestag, a dit les jours derniers qu'on s'était aveuglé et qu'on avait minimisé ce danger. Il parle de terrorisme qui est au cœur du pays. Alors, bien évidemment, il y a plein de façons de l'expliquer. C'est un paradoxe et en même temps, c'est parce qu'on était tellement obsédé par ce passé et qu'on a voulu tellement se voir comme exemplaire dans une lucidité sur le passé, à force de parler de cette extrême droite du passé, on n'en a pas vu les petits bourgeons et les germes qui étaient dans la société. Une des autres explications...
Pardon, quand est-ce qu'ils ont émergé justement ces petits bourgeons? Est-ce que c'est vraiment 2015 ou est-ce qu'en réalité, bien avant déjà, on avait déjà des signes?
Alors, je vais vous
quand je dis 2015, c'est évidemment l'ouverture des frontières.
Depuis 1945, il y a toujours eu des groupes, des petits groupes nazis ou d'extrême droite, antidémocratiques, anti-républicains en Allemagne, et qui ont régulièrement fait des actions, soit des tentatives de visibilité politique, soit de manière souterraine. Les historiens qui commencent à s'intéresser à ce sujet, après s'être surtout intéressés au terrorisme d'extrême-gauche, qui avait aussi une dimension européenne, redécouvre que dans les années 80, il y avait des attentats. Et puis, ces dernières années, on a vu apparaître vraiment sur le devant de la scène.
Il y a les émeutes de Rostock de 92 aussi.
Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire,
juste
c'est...
après la réunification, alors, qui sont très importantes, où on s'en prend à des foyers d'immigrés vietnamiens.
Ouais. Mmh. Le problème, c'est que ce à quoi on assiste ces derniers temps, c'est un peu comme le coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à se multiplier qui est extrêmement rapide. Le nombre de personnes jugées comme dangereuses et potentiellement violente double un peu moins de tous les 10 ans en Allemagne depuis la réunification. Donc
Et maintenant, ils sont estimés à plus de 20 000.
Et c'est estimé à plus de 20 000. Et surtout, il y en a à l'Est et à l'Ouest.
Jean-Dominique Giuliani.
Oui, vous voyez, ce que Hélène disait sur le style Merkel, là, confrontée à cette affaire de l'extrême droite. Parce que moi, j'ai aussi des souvenirs. Helmut Kohl en avait fait un combat politique à un moment. Il avait réussi à réduire un peu les républicaineurs, les menaçants, les poursuivre, etc. D'ailleurs, les poursuivants, en réalité.
Pas Merkel, en tout cas pas suffisamment.
Et j'ai aucun doute sur les convictions de Mme
Bien
Merkel.
Sûr, mais elle n'en a pas fait assez.
Mais elle n'en a pas fait
c'est
assez.
C'est ce que dit Der Spiegel, d'ailleurs.
Voilà. Et elle ne l'a pas portée sur la place publique, vraisemblablement suffisamment, encore que ce soit facile à dire, et plus difficile à faire.
11h45 minutes, vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, l'heure pour nous de retrouver notre dessin chaque vendredi. On sélectionne un dessin en fonction de notre actualité du jour avec nos partenaires de Cartooning for Peace, ce réseau de dessinateurs du monde entier. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown!
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux!
Assis!
Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian.
Et alors le dessin d'aujourd'hui, c'est une illustration de ce qu'on appelle la forteresse Europe.
Oui, les réfugiés qui tentent aujourd'hui de rejoindre l'Europe se heurtent à un front défensif. C'est une barrière réelle, physique, puisqu'on l'a vu, les autorités grecques ne laissent pas passer les réfugiés. Mais c'est aussi un mur idéologique que les pays européens ont façonné ces dernières années, en externalisant leurs frontières en Turquie et ailleurs, et en renforçant les mesures anti-immigration. Avec cette caricature publiée hier sur la plateforme en ligne Kaggle Cartoon, le dessinateur de presse jordanien Osama Ajaj compare cette politique migratoire européenne à une partie de baby-foot. Mais le jeu est déséquilibré. Une mère de famille et ses deux enfants se retrouvent seuls d'un côté du terrain. Face à eux, se dresse une douzaine d'étoiles réparties sur 5 rangées, prêtes à défendre leur but, la porte vers l'Europe. Pour cette famille de déplacés, qui a pour seul bagage un baluchon, la partie est ingagnable. Le dessinateur souligne ainsi toute la dureté de la politique migratoire européenne et retourne contre l'UE la rhétorique déshumanisante utilisée pour qualifier les réfugiés. Ici, ils ne sont pas incarnés par une masse informe, mais par une famille vulnérable. On le voit aux deux enfants qui s'agrippent à leur mère. Ils sont démunis sur cette pelouse bleue, couleur symbolique de l'Europe, mais aussi de la mer où se sont noyés des milliers de réfugiés. Sur ce dessin, c'est plutôt l'Union européenne qui est déshumanisée, réduite à des étoiles parfaitement identiques, comme si les pays membres n'avaient pas d'âme. Un dernier détail retient l'attention. Peut-être la mère de famille porte un niqab. Elle incarne peut-être une certaine perception des réfugiés, celle des extrêmes droites qui crient à l'islamisation de l'Europe et qui résume ces victimes de la guerre à des étrangers qui vont imposer leur religion, leurs pratiques culturelles. C'est ce discours qui a convaincu une partie de l'opinion publique et qui a peut-être eu raison des valeurs humanistes de l'Europe.
Merci beaucoup Hélène Lefrançois pour ce dessin qu'on peut retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, notamment sur le fil Twitter de Culture Monde. Réaction peut-être Hélène Mire de la Croix, Jean-Dominique Giuliani sur ce dessin, Jean-Dominique Giuliani, oui.
Oui, oui. Et on peut rajouter, il manque une personne d'abord, c'est M. Erdogan, c'est les méchants, c'est M. Poutine, c'est M. Erdogan, qui eux n'ont pas le cœur qui saigne comme nous, n'est-ce pas, hein. Ils sont d'un cynisme, c'est d'une brutalité, donc moi je les réintroduirai dans le dessin. Ça n'excuse en rien la critique qu'on peut adresser à l'Europe.
Rappelons quand même que, Marc Semo le disait tout à l'heure, mais le nombre de réfugiés en Turquie, l'Europe ne se partage pas le dixième de ça.
Non, l'Europe a accueilli.
Premièrement, deuxièmement, Monsieur Erdogan doit aussi fait aussi l'objet de pression de la part notamment du camp nationaliste, qui pousse dans ce sens-là, sans parler de l'opinion. On parlait tout à l'heure de Merkel et on disait qu'elle a peut-être trop justement agi en fonction de l'opinion. Erdogan fait aussi cela.
Enfin, non, il subit pas des pressions. Il
je me fais pas l'avocat d'Erdogan, mais
si,
bon.
Si, parce que c'est assez fréquent en France. Mais il a avalé le camp.
Vous voulez dire, on est très pro-Erdogan en France?
Ah,
vous êtes sérieux?
Je trouve. Non, je trouve que de temps en temps, on oublie un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Et il faut, sur le terrain, s'en rappeler. Moi, je rajouterais quelque chose, n'est-ce pas? Le véritable échec de la politique migratoire de l'Union européenne, c'est les 34 000 morts en Méditerranée depuis 2000.
Oui.
Ça, c'est l'échec, n'est-ce pas? Donc, oui, on a, à cause des États membres, incapable de discuter, y compris le nôtre, n'est-ce pas? On n'a pas une politique commune. Et donc, on pourrait au moins essayer d'harmoniser, nous, les pays.
Et vous y croyez, ça?
Mais si, ça va venir. Mais ça va venir parce que les valeurs de l'Europe saignent quand elles voient ça. Elles saignent.
On a une idée de combien de réfugiés syriens, hors le million accueilli en 2015, a été accueilli par l'Europe?
Oui, c'est supérieur à 1 million. Et c'est d'ailleurs les premiers accueillis en Europe. Ce sont les Syriens. Mais il n'y a pas que. Il y a les Afghans, etc. Et il faut savoir que je suis allé sur les îles grecques, vous trouvez des Camerounais. Vous trouvez aussi des... Donc, il y a un moment où il faut aussi être capable de gérer la frontière. C'est ça l'idée de Frontex. On est en retard. c'est incontestable avec la pression migratoire. N'empêche que petit à petit, on va y arriver.
Hélène Mire de la Croix.
Je crois que ce qu'on oublie dans ce débat, peut-être un peu ici, c'est que Erdogan aussi, comme tous les chefs d'État, il agit aussi par rapport à la pression de son opinion publique, oui. À lui. Et que, alors, il y a le camp nationaliste, il l'a en partie avalé, mais il y a aussi surtout, montant en Turquie, non seulement un désaccord vis-à-vis de la présence de beaucoup d'étrangers, entre guillemets, mais aussi une critique très forte contre la politique très, très hasardeuse de Erdogan en Syrie. C'est-à-dire que c'est une façon de donner des gages, entre guillemets, à son opinion très critique contre une décision qu'il a prise seul ou avec ses généraux en donnant l'impression, bon, vous êtes contre ma guerre, mais je vais vous débarrasser des réfugiés. Je pense qu'il faut aussi mettre ça dans le tableau et hélas, ne pas oublier que chacun des acteurs agit toujours aussi en fonction de son opinion publique. Si je peux dire un mot sur ce petit
bien
dessin
sûr, vous pouvez.
Qui est aussi, donc ça a été dit, c'est un jeu de baby-foot. On peut remarquer aussi que les barres qui tiennent les étoiles européennes, elles sont dirigées par des manettes qui sont des deux côtés. C'est-à-dire que elles ne sont pas toutes du même côté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent jouer et qui peuvent mettre en branle ces barrières qui sont représentées par des étoiles. Et c'est peut-être aussi ça, moi, que je verrais. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va réussir à être unis ou est-ce que, et c'est un peu la crise, excusez-moi, c'est la deuxième fois que je parle du coronavirus, mais je pense que la concomitance des deux crises va être très, très révélatrice de la capacité des Européens à agir de manière concertée, si ce n'est complètement ensemble, mais au moins de manière concertée, ou chacun pour soi, en tournant sa manette, et finalement, si il tourne la manette chacun dans un mauvais sens, et ben, la petite dame syrienne, là, elle risque de passer entre les étoiles.
Maximo ? Alors, si on revient, Hélène Mire de la Croix, sur le cas de l'Allemagne, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu ce qui a été vraiment un séisme politique du côté de l'Allemagne, c'est-à-dire cette alliance en Thuringe entre le candidat de la CDU et donc l'AFD. Alors évidemment, pour le coup, Angela Merkel a réagi, mais d'une certaine manière, c'était trop tard, la crise est là, AKK a dû démissionner, laisser sa place. Finalement, qu'est-ce qui a rendu cette alliance possible? Parce que pendant très longtemps, il y avait un vrai cordon sanitaire autour de l'AFD, l'alliance était totalement impossible. Et il se trouve qu'elle a volé en éclats, il a volé en éclats ce cordon sanitaire. Pour quelle raison? Est-ce que c'est simplement des considérations locales ou il s'est passé quelque chose d'autre?
Alors la question que vous posez est importante, mais Florian Delorme, il faut que je vous contredise. Il n'y a pas eu d'alliance entre la CDU et l'AFD. Il n'y a pas eu d'alliance.
On y a pensé.
Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une manipulation extrêmement perverse du système parlementaire par l'AFD qui, parce qu'il n'y avait pas de majorité suffisamment solide et large à gauche, c'est-à-dire les Verts, les sociaux-démocrates, et pour élire quelqu'un de Die Linke, c'est-à-dire de l'extrême-gauche, comme il manquait une ou deux voix, il y a eu, de la part des députés AFD, un jeu très pervers en votant, eux, pour un député qui était candidat, qui était libéral. Et donc, en mêlant leur voix avec celle des chrétiens-démocrates. Donc, c'est important de le dire.
Absolument.
Parce que ça, sinon, on a l'impression qu'ils sont tombés dans les bras et embrassons-nous Folleville. C'est pas ça qui s'est passé. Tout le monde a été pétrifié. La CDU a dit c'est pas ça que nous voulons, mais, et là où vous avez raison, c'est que ce qui se passe en Thuringe, qui est donc un nouveau land de l'ancienne RDA, c'est que la CDU locale a à la fois cette approche de dire nous ne voulons pas travailler avec les extrêmes, et en même temps de dire oui, mais nous ne voulons pas non plus travailler avec l'extrême gauche, et on devrait être un peu plus pragmatique et ne pas exclure aussi, de manière aussi radicale, je prends le mot exprès, une coopération avec l'AFD qui, localement, comme on le voit dans certaines municipalités, raisonnable lorsqu'il s'agit de mettre une fontaine ou de ramasser les poubelles. C'est plus ça la question qui se pose. Et c'est en cela que ça a ébranlé la CDU, parce que la CDU au niveau fédéral et surtout à l'Ouest, est elle parfaitement claire en disant nous refusons de travailler avec l'AFD en même temps que nous refusons de travailler avec Die Linke. Et c'est presque là que la CDU, je pense, se fait un croche-pied à elle-même. C'est qu'en mettant sur le même plan deux entre guillemets extrême, elle relativise et elle minimise l'hostilité à la démocratie que représente l'AFD Alors que Die Linke, en étant d'extrême gauche, en est pour autant complètement dans le jeu parlementaire et démocratique.
Et alors, est-ce que finalement, avec un jeu de billard à plusieurs bandes, ce ne sont pas les sociaux-démocrates qui pourraient tirer leur épingle du jeu? Il y a finalement cette CDU qui va mettre la barre à droite. Il y a peut-être un espace là qui va se libérer pour les sociaux-démocrates qui, eux, sont en crise depuis un moment, en réalité, Jean-Dominique Giuliani.
Absolument, mais je ne veux pas faire de parallèle, mais en essayant de prendre une optique un peu européenne, on a eu ces débats chez nous. Dans les droites françaises à un moment. Il y a les électeurs de Mme Le Pen, et puis il y a Mme Le Pen, etc. On a eu ce débat, et il est beaucoup plus dramatique en Allemagne, je crois, parce qu'il y a une vraie extrême droite, comme vous le rappeliez, qui, elle, le tue même. Hein, elle a fait plus de morts que le terrorisme islamiste ces dernières années, hein, d'extrême droite allemande. Donc c'est très préoccupant, mais avec une optique européenne, je pense qu'il faut... je ne suis pas sûr que les sociaux-démocrates qui se cherchent encore et qui se sont effondrés partout vont arriver à en tirer profit. Je pense que ce sont les droites européennes qui, à leur tour, vont sombrer, les droites traditionnelles européennes. C'est ça que je crains, y compris en Allemagne. Et je l'explique comment, peut-être on vient d'avoir cette discussion sur l'immigration, par une certaine conception de l'autorité. N'est-ce pas? À force, c'est exactement ça en Allemagne. On reproche à Madame Merkel de ne pas tenir sa droite, comme l'aurait dit Franz Josef Strauss, etc. Personne à ma droite. Donc évidemment, des mesures un peu plus autoritaires, mais aussi très centristes à la fois. Et Madame Merkel, qui a en plus a pris ses décisions un peu toute seule, sur le nucléaire, sur les réfugiés, ben elle voit tout ça lui revenir au visage de manière peut-être injuste, mais prévisible aussi.
Et l'autre grande force qui monte, beaucoup plus que le SPD, c'est les Verts. Ce sont les Verts.
Oui. Alors, ils en tirent profit.
D'une certaine façon, vont vers le centre, pourraient même récupérer une partie de l'électorat libéral, et ne sont pas hostiles, ils gouvernent déjà certains Länder ensemble, à une alliance avec la CDU.
Oui, tout à fait.
Et le vrai facteur nouveau qui change totalement la donne, ce sont les Grünes.
Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, au sens où on voit apparaître une ligne de fracture entre eux, les Verts, dont le discours environnemental attire une partie des électeurs des autres partis traditionnels, d'ailleurs, à juste titre, puisque ces partis traditionnels s'étaient progressivement verdis, mais aussi parce que l'AFD, on dit toujours l'AFD, sont contre les étrangers, ils ont deux thèmes. Ils sont pas monothématiques, ils sont bithématiques. Ils ont un thème qui est nous n'aimons pas les étrangers, nous n'aimons pas les arabes, nous n'aimons pas l'islam. Et le deuxième thème, c'est nous ne voulons pas de ces foutaises d'énergie renouvelable. Le charbon, c'est très bien. Il faut pas empêcher les gens de prendre leur voiture. Qu'est-ce que c'est que cette liberté fondamentale qu'on nous raconte? Il n'y a pas de, je mets plein de guillemets bien évidemment, de réchauffement climatique. Et donc, ce choix que l'AFD fait de ne pas être seulement anti-étranger, mais aussi anti-vert, c'est une façon d'être anti-gentrification, être anti-diversité, anti-mixité, et finalement, parle à un électorat qui a envie de choses claires, d'ordre, et le monde d'avant était plus facile.
Eh bien, tous ces échanges que vous venez d'avoir, on va les poursuivre la semaine prochaine, parce que par exemple, cette question de l'alliance entre les conservateurs et les écologistes, on va l'évoquer dans un de nos laboratoires de l'Europe la semaine prochaine, s'agissant de l'Autriche. On parlera aussi de la Hongrie, on parlera de l'Italie, de la Grande-Bretagne. Ça, ce sera la semaine prochaine, les nouveaux laboratoires de l'Europe. Merci beaucoup à nos invités, Hélène Mière de la Croix, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à l'Université Sorbonne. Merci Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Merci beaucoup Marc Semo, notre partenaire du Monde chaque vendredi. Rendez-vous la semaine prochaine, Marc. 11h58, dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.